Bonjour, c'est l'émission Voix de service quotidien de ce mardi 25 avril 2017. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. J'espère que vous allez bien. Et avec moi et de l'autre côté de la fenêtre, en régie, Rémi Hermozon en remplacement de Jean-Sébastien Laliberté aujourd'hui. Bonjour Rémi.
Bonjour Hélène, comment ça va?
En forme?
Ça va super.
Bon, super. Alors, on vous écoute, vous allez faire une chronique éphéméride?
Oui, j'ai trouvé quelque chose pour nous.
Oui.
Ce 25 avril en 1744, le physicien suédois Anders Celsius décédait. C'est à lui qu'on doit du coup les degrés Celsius.
Mm-hmm.
En 1940 est né l'acteur américain Al Pacino. En 1918 est née la chanteuse américaine Ella Fitzgerald. En 1507, le géographe Martin Waldseemüller nomme l'Amérique en l'honneur du navigateur Amerigo Vespucci. En 1849, une loi est adoptée sur les dommages lors des rébellions de 1837 et 1838 à Montréal, et l'affaire provoque une émeute et l'incendie du Parlement qui feront déplacer la capitale. En 1859, ont commencé les travaux du canal de Suez qui termineront 10 ans plus tard. En 1967, à Montréal, l'autoroute des Carrières est inaugurée. En 1971, à Washington, 200 000 personnes dénoncent la guerre du Vietnam. En 1990, la navette Discovery déploie le télescope Hubble en orbite à 500 km d'altitude. En 1997, l'ONU demande l'arrêt de la construction par Israël de 6500 logements à Jérusalem-Est en vain. En 2000, est condamné en mars 1997 a été condamné pour trafic d'héroïne la Canadienne Nguyen Thi Hiep et qui sera fusillée au Vietnam. C'était pas clair, ça. On parle de 1997 et de 2000 en même temps.
Oui.
Elle a été condamnée en 97 et fusillée en 2000.
Voilà, d'accord.
Excusez-moi.
Un 25 avril.
Exactement. En 2005, au Québec, le Collège des médecins permet aux infirmières de prescrire des anovulants aux adolescentes. Et en 2006, le joueur de soccer français Zinedine Zidane annonce la décision de mettre fin à sa carrière à l'issue de la Coupe du Monde d'Allemagne qui terminera par un assez connu coup de boule.
Hum. Vous disiez que vous aviez trouvé quelques petites choses, mais je trouve qu'il y en a pas mal.
Oui, finalement, il y en avait beaucoup. Je ne me rends pas compte quand je les cherche, mais ça s'empile vite.
Merci, Rémi. À la une de la presse, actualité, commerce, Canada, États-Unis, bois d'œuvre, Washington déclare la guerre. Actualité, programme spatial canadien, 3 Québécois espèrent décrocher la Lune. La chronique de Patrick Lagacé intitulée « La détresse scolaire de Jeanne ». L'UPAC aurait enquêté sur Jean Charest. Et la chronique d'Hugo Dumas, La voix métal de la voix. Washington déclare la guerre. L'administration Trump impose un droit compensateur variable qui atteindra 20 % pour les petites et moyennes scieries du Québec. Le conflit du bois d'œuvre, le cinquième depuis 1982, est officiellement lancé. Les exportations canadiennes vers les États-Unis seront frappées aujourd'hui par un droit compensateur de 19,88 %, selon ce qui ressort d'un communiqué de l'industrie américaine diffusé hier soir. Le département américain du commerce doit confirmer ce matin qu'il a donné raison à l'industrie du bois d'œuvre américaine en concluant que le Canada subventionnait son secteur forestier à travers ses régimes provinciaux de droits de coupe sur les terres publiques. Cependant, le montant sera différent pour certaines des plus grosses entreprises canadiennes. Les exportations canadiennes de bois d'œuvre dépassent 7,5 milliards annuellement. Les droits compensateurs pourraient donc se chiffrer à 1,5 milliard de dollars. Le gouvernement du Québec se préparait déjà au pire hier en prévoyant jusqu'à 300 millions par année pour venir en aide à l'industrie québécoise qui emploie 60 000 personnes. S'il se produit une dislocation de la chaîne de valeur de l'industrie forestière, c'est tout le Québec qui va être touché. C'est ce qu'a dit Philippe Couillard sur les ondes de Radio-Canada. La décision qui sera confirmée officiellement aujourd'hui par le département du commerce est temporaire avant un tarif définitif qui sera fixé l'automne prochain. Le gouvernement du Canada défendra vigoureusement les intérêts de l'industrie canadienne du bois d'œuvre résineux, y compris en recourant aux tribunaux. Extrait du communiqué des ministres Jim Carr et Chrystia Freeland. Le crime organisé aux commandes. Dans son rapport annuel 2016, le bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal affirme que les motards, la mafia et même les gangs de rue ont pris le contrôle du remorquage dans l'île de Montréal. On y dénonce aussi la lenteur de Montréal à payer ses fournisseurs. C'est un texte de Daniel Renault. Des remorqueurs craints de tous, des acteurs importants du crime organisé québécois se profileraient derrière la prise de contrôle du remorquage à Montréal. Hier, le bureau de l'inspecteur général, le BIG, a déposé un rapport coup de poing dans lequel il affirme que les motards, la mafia et même les gangs de rue ont pris le contrôle du remorquage des véhicules accidentés dans 18 des 19 arrondissements de l'île de Montréal depuis la fin des contrats d'exclusivité par secteur. Ces entreprises liées au crime organisé gèrent le partage des territoires et impose même des taxes aux entreprises légitimes à coups de menaces et d'intimidation. Cette situation fait en sorte que les coûts de remorquage seraient de 4 à 8 fois plus élevés pour les citoyens. Une série télé dangereuse pour les ados dépressifs, selon des intervenants. On parle de la télésérie 13 Reasons Why. C'est un texte de Caroline Touzin. À la clinique spécialisée pour les adolescents souffrant de troubles dépressifs et suicidaires de l'Institut Douglas, il y a déjà un effet 13 Reasons Why. Et il est négatif, confirmant du même coup les craintes soulevées par les spécialistes en prévention du suicide depuis la sortie de la série américaine sur Netflix à la fin du mois de mars. On a vu à la clinique des ados en cours de traitement avoir encore plus d'idées suicidaires après avoir écouté les premiers épisodes. La série a aggravé leur état, décrit la docteure Joanne Renault, chef médical du programme de pédopsychiatrie à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. La série 13 Reasons Why, 13 raisons en français, traite du suicide d'une adolescente, Anna Baker, qui laisse derrière elle 13 cassettes audio pour expliquer son geste. Cette série, produite par la chanteuse pop américaine Selena Gomez, est actuellement le sujet de l'heure chez les adolescents et les jeunes adultes, tant au Canada, aux États-Unis qu'en Europe. On ne peut pas faire comme si la série n'existait pas. On ne peut pas non plus l'interdire aux ados car ça va avoir l'effet contraire. Ça va les inciter à l'écouter. Mais une mise en garde s'impose. Les risques de contagion chez des ados qui souffrent déjà sont réels, dit Joanne Renault, pédopsychiatre. Exclusif à la presse, des équipements médicaux mal en point. 20 appareils de radiothérapie sur les 96 que compte le Québec ont dépassé leur vie utile. Ces équipements névralgiques pour les patients cancéreux qui doivent être traités par radiation sont en mauvais ou très mauvais état, indique le Plan québécois des infrastructures, le PQI, déposé avec le dernier budget. L'évaluation du parc des équipements médicaux soulève l'inquiétude. Pour la radiothérapie, intervention où la précision est déterminante, on dénombre 10 % des 96 appareils en très mauvais état, 11 % sont en mauvais état. On retrouve de ces appareils déficients à Maisonneuve-Rosemont, à l'hôpital Notre-Dame et à l'hôpital Général à Montréal, de même qu'à l'Hôtel-Dieu de Québec. Cet indice est basé sur la durée de vie théorique de l'appareil. Selon l'utilisation ou l'entretien, l'appareil peut être fonctionnel au-delà de ses limites théoriques, a expliqué Julie White, porte-parole du ministre Gaétan Barrette. La santé des patients n'a pas été mise à risque, soutient-elle. Le problème clignote en rouge depuis longtemps au tableau de bord du ministre de la Santé. Déjà, en 2015, la vérificatrice générale Guylaine Leclerc observait qu'en matière de radiothérapie, un appareil sur quatre au Québec n'était pas conforme aux normes. Pas moins de 60 % de ces appareils étaient considérés comme désuets. Du côté de l'imagerie médicale, le portrait n'est pas plus rose. Pas moins de 21 % des 3541 appareils sont en mauvaise ou très mauvaise condition. Exclusif, la bâtonnière jette l'éponge, coup de théâtre au barreau dans les derniers jours d'une campagne électorale tendue. L'actuelle bâtonnière renonce à briguer un second mandat afin d'éviter que la course à trois ne permette à Maître Lou Chang-Kwang de se faufiler à la tête de l'organisation. Maître Claudia Prémont en fera l'annonce officielle aujourd'hui, à peine une semaine avant le début du scrutin. Elle donnera son appui à Paul-Mathieu Grondin, un jeune avocat montréalais en qui elle a confiance afin de présenter un front uni. Festival des films du monde, le cinéma impérial bientôt saisi. Deux prêteurs privés qui avaient allongé des millions de dollars à Serge Lozic pour lui permettre de tenir la plus récente édition de son Festival des films du monde n'en peuvent plus d'attendre pour être remboursés. Ils viennent d'annoncer officiellement qu'ils comptent saisir le cinéma impérial, un joyau inscrit au répertoire du patrimoine culturel du Québec, s'ils n'ont pas revu la couleur de leur argent d'ici 60 jours. 3,65 millions, somme avancée à Serge Lozic par les deux prêteurs privés, qui lui réclament maintenant 4,3 millions. L'opposition à l'Hôtel de Ville a profité de la réunion du conseil municipal pour presser le maire de Nicodère de dévoiler combien d'argent public il comptait investir pour favoriser le retour des expos à Montréal. Vous négociez combien et à quelle fin? C'est ça que les Montréalais veulent savoir. Il faut un mandat pour négocier, il faut un ordre de grandeur, il faut une stratégie. Il faut des retombées économiques claires, a demandé le conseiller Eric Allen Caldwell de Projet Montréal. Le maire a toutefois refusé de dévoiler son jeu. « Je ne commencerai pas à négocier en public pour s'enlever toute force et capacité d'aller chercher un maximum. » Taux de vaccination, les parents hésitants empêchent l'atteinte de la cible canadienne. Si le Canada peine à atteindre sa cible d'un taux de vaccination de 95 % pour ses enfants, ce n'est pas principalement la faute des parents qui rejettent totalement la vaccination, mais également à cause de parents hésitants qui estiment que le risque que leur enfant contracte ces maladies est trop faible pour qu'un vaccin soit nécessaire ou qui s'estiment trop occupés pour avoir le temps d'assurer l'immunisation de leur progéniture, révèle un rapport de l'Institut CDAO qui sera publié jeudi. 73 % pourcentage d'enfants de 2 ans dont les vaccins sont à jour au Québec.
It's Christmas time, and I wanna see Santa Claus. Yes, it's Christmas time, and I wanna see Santa Claus. Gonna ask him for my baby. Ain't that a real good cause? He was my loving baby, and I love him all so strong. He was my loving baby, and I loved him.
Alors, vous avez reconnu Ella Fitzgerald puisqu'on célèbre son anniversaire aujourd'hui. Elle est née un 25 avril et on l'entendait dans une chanson de Noël. Mais là, comme c'est le printemps qui tarde à venir, on va se mettre un peu plus dans l'ambiance printemps-été Festival international de jazz de Montréal où Ella Fitzgerald est venue très, très souvent. Alors, on l'écoute dans un autre titre.
Swing, do I 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 do I. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I 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 do I. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I 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 do I. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do, don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I do I? It makes a difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I 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 do I. Everything you've got, don't mean a thing. All you gotta do is
Et c'était Ella Fitzgerald avec I Don't Mean a Thing.
En une du Devoir de ce mardi 25 avril, Montréal, le remorquage est infiltré par le crime organisé. Marijuana associée autochtone recherchée. Pierre Bayard, détective littéraire, l'écrivain et professeur martèle l'obligation de lire entre les lignes. La Cour suprême a l'occasion de préciser l'arrêt Jordan. Bois d'œuvre, l'industrie canadienne saura à quoi s'en tenir ce mardi. Monde, deux France en duel. La campagne de deux semaines menant au second tour de la présidentielle s'annonce rude. Marijuana associée autochtone recherchée, une compagnie de production de marijuana médicale fait la tournée des réserves autochtones du pays pour y trouver des partenaires d'affaires. Ces tentatives d'approche ciblant les Premières Nations, souvent aux prises avec des problèmes importants de toxicomanie, dérangent l'Assemblée des Premières Nations du Canada qui y voit de l'opportunisme économique. L'entreprise ontarienne Del Shen, dont l'ex-ministre libéral Martin Cauchon est actionnaire, fait partie de la liste fédérale de producteurs autorisés de cannabis à des fins médicales depuis le 28 février 2017. L'entreprise a visité des chefs autochtones à travers le Canada au cours des derniers mois. Jusqu'ici, elle a conclu des ententes avec les communautés nord-ontariennes de Wagoshig et de Matachewan, situées de part et d'autre de Kirkland Lake, où est installée son usine de production de marijuana médicale. Au Québec, cependant, au moins les communautés de Wendake et de Kitigan-Zibi ont décliné l'offre de Del Shen en raison des problèmes que causent déjà les drogues dans leur communauté. Comme nation Huron-Wendat, ce n'était pas le genre de développement économique dans lequel on voulait investir, auquel on voulait s'identifier, a déclaré le chef de Wendake, ou Wendake plutôt, Conrad Siwi. On a décidé de ne pas participer à l'aventure et si un jour on change d'idée, on vivra avec nos regrets. Le remorquage est infiltré par le crime organisé. On en parle dans tous les journaux montréalais ce matin. Après avoir reçu des signalements concernant le remorquage lors d'opérations de déneigement, l'équipe de l'inspecteur général a décidé d'élargir son enquête aux autres contrats accordés par la Ville de Montréal en matière de remorquage. Les découvertes du BIG, donc le bureau de l'inspecteur général, sont alarmantes. Le crime organisé, qu'il s'agisse des Hells Angels ou de la mafia italienne, aurait graduellement pris le contrôle de certains secteurs du remorquage, dont celui des véhicules accidentés. Montréal n'ayant pas accordé de contrat d'exclusivité depuis février 2016 pour ce secteur, des entrepreneurs auraient la mainmise sur certaines zones. La quasi-totalité des secteurs est aujourd'hui contrôlée, en tout et en partie, par au moins une compagnie reliée d'une façon ou d'une autre au crime organisé. Parfois, les dirigeants des compagnies de remorquage sont eux-mêmes membres de ces organisations criminelles, note le BIG dans son rapport. En cours d'enquête, le BIG a également découvert que le remorquage favorisait les activités parallèles. Ainsi, des témoins ont affirmé que certains chauffeurs de remorqueuses se livraient au trafic de stupéfiants, au vol de voitures, au proxénétisme, au blanchiment d'argent et aux prêts usuraires. Dans d'autres cas, les dirigeants sont appuyés par le crime organisé, ce qui leur permet d'avoir l'assurance de pouvoir opérer de façon exclusive dans des secteurs donnés, sans crainte de représailles des concurrents. Mais l'appui du crime a un prix. Ainsi, le propriétaire d'une entreprise a reconnu avoir versé entre 500 et 700 $ par semaine pour être appuyé par un membre influent des Hells Angels. Un entrepreneur a payé jusqu'à 150 $ par véhicule remorqué. « Des cyclistes en colère se sont rendus à l'hôtel de ville lundi soir pour dénoncer la fermeture du circuit Gilles Villeneuve cet été en raison des travaux de construction du nouvel amphithéâtre naturel. Mais l'accès au circuit pour les cyclistes pourrait être limité en 2018 aussi, puisque le chantier ne sera pas terminé, ont-ils appris. Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise de sport cycliste, dit avoir appris la nouvelle vendredi lors d'une rencontre avec les représentants de la Société du parc Jean Drapeau, la SPJD. Rappelons que la construction de l'amphithéâtre naturel de l'île Sainte-Hélène force le promoteur Evenco à déplacer ses spectacles sur le circuit Gilles Villeneuve cet été. Du 8 mai au 4 septembre, les cyclistes et patineurs ne pourront pas utiliser la piste. La SPJD a promis de tenter, lorsque cela sera possible, d'ouvrir de 18h à 21h une section en ligne droite du circuit pour permettre aux cyclistes de s'y entraîner. À moins de deux semaines du dernier tour de l'élection présidentielle française, une pétition demande l'ouverture d'un deuxième site de vote pour les quelques 57 000 électeurs montréalais inscrits sur la liste électorale. Samedi, lors du premier tour, de nombreux électeurs ont dû attendre en file jusqu'à 3 heures sous la pluie pour exercer leur droit de vote au Collège Stanislas dans Outremont. Selon plusieurs témoignages, des centaines d'entre eux ont rebroussé chemin. Afin que cette situation ne se reproduise pas au deuxième tour, qui se tiendra le 6 mai à Montréal, le candidat socialiste aux élections législatives en Amérique du Nord, Yann Chantrel, a lancé une pétition qui demande à l'administration consulaire de Montréal d'ouvrir un deuxième site afin d'éviter qu'une foule se dirige à un seul endroit.
Et rougit le soleil. Les étoiles du nord nous rappellent la mort. Et tu m'appelles encore. Tu dormais sur le banc tandis que je conduisais. Et j'espère ne jamais arriver. Regarde les étoiles. Tant qu'il y aura des étoiles sur le bord de la route, nous devrons nous arrêter. Tant qu'il y aura des rivières, nous baigner. Et tant qu'il y aura le feu, nous irons peu à peu. Été comme hiver, vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux. Le temps passe et un jour on est vieux et puis seul et rien ne reste plus que la fierté d'avoir aimé correctement ou la honte et les tourments de ne pas avoir compris. Attends, attends, j'ai quelque chose à te dire. Sur le bord de la route, nous pourrons nous arrêter. Tant qu'il y aura des rivières, nous pourrons nous baigner. Et que plus jamais rien ne redoute d'autre destin que celui du doute. Jamais je n'oublierai les étoiles sur la route de Toronto et ce jour sur cette plage du lac Ontario. Millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire,
On écoutait Balade à Toronto de Jean Leloup.
En une du Journal de Montréal de ce mardi, alors ça occupe pratiquement toute la page. On voit d'un côté une image, une photo de Jean Charest et de l'autre de Marc Bibeault. Au centre, c'est écrit « Financement politique, enquête de l'UPAC sur le tandem Charest-Bibeault ». Et tout juste en haut, bilan de la saison des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, catégorique, pas question d'échanger Price. Jean Charest et Marc Bibeault surveillés par la police, l'ex-premier ministre Jean Charest et l'ex-grand argentier libéral Marc Bibeault ont fait l'objet de surveillance policière au moins jusqu'en 2016 dans le cadre d'une enquête sur les liens entre le financement politique et l'octroi de contrats publics, a appris notre bureau d'enquête. C'est un texte signé Jean-Louis Fortin et Félix Séguin. L'Unité permanente anticorruption, l'UPAC, a ciblé ces deux hommes ainsi qu'une trentaine d'autres personnes, dont l'ex-ministre Lynn Beauchamp et l'ex-directrice du financement du Parti libéral du Québec, Violette Trépanier, dans le cadre d'une enquête criminelle nommée « Mâchurée ». Selon nos informations, voici quelques-unes des démarches de surveillance qui ont été effectuées. En janvier 2016, les enquêteurs ont demandé et obtenu de la part des services frontaliers la liste des dizaines de passages de Marc Bibeault et Jean Charest aux douanes canadiennes depuis 2003. Des fiches détaillées des deux hommes qui contiennent notamment des informations familiales et bancaires personnelles ont été dressées. Des renseignements sur le passeport de Jean Charest ont été obtenus par la police. Les policiers avaient même l'intention d'intercepter des communications privées de Jean Charest et Marc Bibeault au début 2016. On ne sait toutefois pas s'ils sont effectivement passés à l'acte. Selon plusieurs sources, l'enquête Mâchurée découle notamment du projet LIER de l'UPAC, qui a permis d'arrêter l'ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau et six autres personnes l'an dernier. La police étudie la thèse que de grandes firmes de génie et de construction auraient fourni d'importantes contributions politiques illégales en retour de l'octroi de contrats gouvernementaux et de subventions sous le règne libéral entre 2003 et 2013. À ce jour, les seules informations qui plaçaient Jean Charest sous le radar policier avaient été publiées en 2014. Radio-Canada révélait alors que la police s'intéressait à l'ex-premier ministre pour une activité de financement sectoriel avant 2003. Jean Charest avait alors répondu n'avoir participé à aucune forme illégale de financement politique. Invités à émettre des commentaires, les porte-paroles de Jean Charest et de Marc Bibeault n'avaient pas encore fourni de réponse au moment d'écrire ces lignes. Un policier sauve deux enfants. Elina Martin, 8 ans, et un de ses amis de 10 ans s'amusaient sur la glace fragile du golfe du Saint-Laurent dimanche soir lorsque la glace s'est cassée. Les deux amis se sont mis à dériver sur un morceau de glace d'environ 2 mètres carrés. Le hasard a fait que les agents Martin Bouchard et Patrick Dufour se trouvaient à environ 500 mètres et sont arrivés très rapidement. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu les deux enfants en panique sur un morceau de glace instable d'environ 2 mètres carrés, a raconté M. Bouchard. Celui-ci a alors sauté dans l'eau glaciale pour aller les chercher. La mère d'Elina, Arlette Martin, a tenu à féliciter les policiers pour leur acte de bravoure. Le directeur de l'école Olamen de la Romaine, Mathieu Boivin, affirme qu'il n'est pas rare que les jeunes de la communauté jouent sur la glace et que la police soit appelée. L'école a profité de cet événement pour sensibiliser les jeunes au danger de tomber dans l'eau glaciale. Cinq 55 millions en plus dans leur poche. Alors, on voit une photo d'un couple qui a le grand sourire aux lèvres. Nathalie Langlais et Gilles Rosnen viennent de gagner un gros lot de 55 millions, dont cadeaux, voyages et une piscine sont au programme des millionnaires. Gilles, je capote, vois-tu ce que je vois, a lancé Nathalie Langlais à son conjoint qui ne croyait pas le chiffre qui s'affichait sur son cellulaire après avoir remporté le gros lot de 55 millions de l'Auto Max samedi matin. Des pommes de laitue vendues deux fois plus chères. Les pluies en Californie forcent des fournisseurs à acheter en Espagne. Si vous pensiez vous faire une salade cette semaine, pensez-y à deux fois. Le prix de la laitue devenue denrée rare vient de doubler après que des pluies ont compromis les récoltes en Californie. Toutes les catégories de salades ont des prix vraiment hors normes. Ça s'est déjà vu par le passé, mais jamais aussi longtemps, insiste Guy Millette, vice-président international et développement des affaires chez Courchaine Larose, un important grossiste en fruits et légumes. Une pomme de laitue frisée, iceberg et romaine se détaille depuis quelque temps autour de 4 ou 5 $ en épicerie. C'est que la production en Californie est à son plus bas en raison des fortes pluies qui ont perduré en janvier et février, empêchant les travailleurs de semer de la laitue. Pour pallier ce manque, de la salade venue du Mexique ou de la Floride a été importée, mais c'est insuffisant pour répondre aux besoins. C'est pour cette raison que l'entreprise Courchaine Larose fait venir sa laitue d'Espagne. On ne l'a pas fait pour avoir un prix bas, on l'a simplement fait pour réussir à avoir de la laitue, soutient M. Millette. Sylvain Charlebois, spécialiste en agroalimentaire, ajoute que la salade connaît un regain de popularité auprès du consommateur au printemps, ce qui met aussi de la pression sur le prix. Accusé d'avoir secoué à mort son bébé, il est acquitté après 26 ans. Ça m'a replongé constamment là-dedans. C'était fatigant. Imaginez-vous avoir la tête plongée dans l'eau à tout bout de champ, a lancé Gabriel Palombi à sa sortie de la salle d'audience au palais de justice de Salaberry de Valleyfield. En octobre 91, il a retrouvé sa fille Sarah inconsciente dans son lit. Le bébé de 5 mois est mort 13 heures plus tard à l'hôpital. À l'époque, une enquête criminelle avait été ouverte sans qu'aucune accusation soit portée. L'homme, aujourd'hui âgé de 48 ans, a plutôt été arrêté en 2009, soit 18 ans plus tard. Les policiers avaient réactivé l'enquête à la demande du coroner qui souhaitait qu'on se penche sur les 48 dernières heures de l'enfant. Le tribunal souligne qu'en 1991, les médecins avaient toutes les raisons de suspecter le secouement du bébé. Toutefois, la preuve présentée en 2017 ne permet pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, que Sarah est décédée du secouement du bébé. Une toile de Mickey Mouse volée de façon inusitée. François Boutette, originaire de Québec, est un artiste d'art numérique 3D qui a créé des tableaux de mascottes comme Snoopy, Tintin, Daffy Duck et Le Petit Prince. Le plus drôle, c'est que c'est la deuxième fois, dit l'artiste, concernant le vol vendredi passé à la galerie Beauchamp dans le Vieux-Montréal. Le tableau du Rubik Cube à 4000 $ a été volé en novembre à Toronto dans une autre galerie Beauchamp. Le vol à Montréal est survenu lorsqu'un client a appelé afin d'acheter le tableau de 5 pieds sur 5 pieds, Mickey Vintage, My Cutie Love. L'acheteur a envoyé des photos de 3 cartes de crédit avec son nom. L'une des 3 a fonctionné pour le paiement de 4000 $. Il a informé la conseillère que quelqu'un allait venir récupérer Mickey parce que lui se trouvait à Gatineau. Comme la transaction bancaire avait été acceptée, elle a remis le tableau au chauffeur. Le client a rappelé quelques minutes plus tard pour acheter 2 autres œuvres du même artiste à récupérer dans la demi-heure. Une nouvelle commande de 12 000 $. À ce moment-là, la conseillère en art a appelé les compagnies de cartes de crédit et a appris que les numéros étaient valides, mais qu'ils ne correspondaient ni avec le nom ni avec l'adresse donnée. Le fin finot a probablement truqué des photos de fausses cartes de crédit avec Photoshop. Une supercherie semblable a été dénoncée à Toronto. Dans tous les cas, l'artiste a reçu ses cachets, bien que les œuvres aient disparu. L'augmentation du nombre de jeunes qui fréquentent l'éducation des adultes est un symptôme du mal qui ronge le réseau de l'éducation selon l'opposition à l'Assemblée nationale. Le journal rapportait hier que les jeunes de 19 ans et moins qui quittent les écoles secondaires pour se retrouver dans les centres de formation des adultes sont plus nombreux que jamais. On en retrouve maintenant près de 80 000, soit 11 500 de plus qu'il y a 10 ans. Or, les professionnels qui aident les élèves en difficulté, comme les orthopédagogues, les orthophonistes ou les psychologues sont beaucoup plus rares à l'éducation des adultes que dans le réseau scolaire régulier. Si l'école régulière ne colle plus à la peau de la jeune génération d'aujourd'hui, il faut se poser des questions et se demander pourquoi, lance Alexandre Cloutier, porte-parole du Parti québécois en matière d'éducation. Jean-François Roberge y voit de son côté une réaction un peu désespérée, provenant de jeunes qui voient leur parcours à l'école secondaire semé d'embûches. M. Roberge rappelle que les élèves considérés comme étant handicapés ou en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation au secondaire se débarrassent comme par magie de cette étiquette lorsqu'ils sont rendus à l'éducation des adultes où les services sont à peu près inexistants puisqu'ils ne sont pas reconnus comme tels.
J'ai mauvais caractère, peut-être même un peu cruel. Un fichu caractère, je suis un caractériel. Déjà quand j'étais petit, je trivais mes amis, j'ai donné des ulcères à mon père pis ma mère. J'ai acheté un pitbull, même lui m'endurait pas. Il se livrait lui-même à la SPCA. Hey! Hey! Trop mauvais caractère, je vais changer de profession, je vais devenir mercenaire au bain gardien de prison. J'ai mauvais caractère, surtout quand je viens de me lever pour me calmer les nerfs. J'avale 40 cafés, j'ai jamais pu garder une femme à mes côtés. Après une heure et quart, elle se rhabille pas, prend le bord. Un soir pendant un show, y'avait un grand nono, il parlait un peu fort, il a mangé ma guitare. Hey! Hey! J'étais né de me faire la gueule, j'peux même plus m'endurer, laissez-moi pas. J'ai mauvais caractère. Un fichu caractère, un mot
je vais finir en enfer.
Ok, c'est fini!
Et c'était Les Colocs avec Mauvais Caractère.
Alors, le quart d'heure où les sujets sont plus légers, où les sujets nous font réfléchir, trois Québécois espèrent décrocher la Lune. Ils étaient 3772 sur la ligne de départ. Ils ne sont maintenant plus que 17, dont trois Québécois. Leur rêve, devenir l'un des deux prochains astronautes canadiens. Comme toujours, les finalistes affichent des aptitudes physiques exceptionnelles et possèdent des CV dignes d'impressionner la belle-mère la plus difficile. La presse vous présente ces Québécois qui, pour la première fois depuis des décennies, pourraient fouler le sol lunaire ou même martien. Charles-Philippe Lajoie, je suis prêt pour le défi de l'espace. Dans les années 90 à Rouyn-Noranda, un petit garçon aperçoit la planète Vénus dans le ciel étoilé et prend une décision, devenir astronaute. Hier, Charles-Philippe Lajoie s'est rapproché de son rêve en devenant l'un des 17 finalistes de la quatrième campagne de recrutement de l'histoire de l'Agence spatiale canadienne. « C'est tout un honneur », a-t-il dit à la presse. « Aller dans l'espace est un immense défi. Les 16 autres candidats sont des gens hautement qualifiés, mais j'ai relevé plusieurs défis dans ma vie et j'ai confiance d'aller jusqu'au bout. » Après des études en physique et en astronomie, Charles-Philippe Lajoie travaille aujourd'hui pour le Space Telescope Science Institute à Baltimore, aux États-Unis. Il effectue des tests sur le télescope spatial James Webb, le successeur de Hubble, qui sera envoyé dans l'espace en octobre 2018. Son équipe et lui se préparent à aligner à distance les 18 miroirs formant le télescope lorsqu'il sera en orbite, des manœuvres cruciales desquelles dépendra le bon fonctionnement de l'engin de 8 milliards US. Ce sera à l'Agence spatiale de décider, mais j'espère que mon expérience sur le télescope pèsera dans la balance, dit Charles-Philippe Lajoie. Le trentenaire n'est pas militaire comme plusieurs candidats, mais est néanmoins pilote amateur et passionné d'aviation. C'est aussi un sport accompli qui a fait partie de l'équipe. C'est aussi un sportif accompli qui a fait partie de l'équipe de cross de l'Université McMaster en Ontario lorsqu'il y a fait son doctorat en physique et en astronomie. J'ai toujours joué au hockey. Je fais de la course, de la nage et de l'entraînement en gymnase, énumère-t-il. Sans compter qu'en bon Abitibien, il est amateur de chasse et de pêche. Quant à la passion du ciel, elle ne s'est jamais estompée. J'ai commencé avec un télescope dans ma cour arrière. J'ai passé des nuits à regarder la Lune, les étoiles et les planètes, raconte-t-il. Au-delà des héros, ce sont surtout les images de l'espace qui l'ont marqué. Les images des missions lunaires, les images du télescope Hubble, les images des lancements de navettes américaines m'ont servi d'inspiration, précise-t-il. Charles-Philippe Lajoie en est bien conscient. Pour la première fois depuis des décennies, les astronautes qui seront choisis pourront rêver d'aller au-delà de la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, on parle de retourner sur la Lune, d'explorer des astéroïdes, même d'aller sur Mars, dit-il. Ce sont des missions auxquelles je participerai sans aucun doute. Alors oui, je suis très excité pour la suite. Thomas Ivan Alexander Byrne, l'homme qui ne perd pas son temps. Sa devise est claire et succincte, « Ne perdez pas votre temps ». Et un coup d'œil au parcours de Thomas Ivan Alexander Byrne suffit pour comprendre qu'il l'applique à la lettre. Le natif de Montréal a un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat en sciences de l'ingénieur en aérospatial de l'Université du Colorado à Boulder. Mais à travers ça, il a trouvé le moyen de faire aussi un baccalauréat en radio-télé-journalisme et une maîtrise en santé publique. Ancien ingénieur à la NASA, Il est aujourd'hui professeur de génie mécanique à l'Université d'État de Portland. Ah oui, il dirige aussi un programme national de santé au Rwanda de 35 millions de dollars qui a déjà fourni des cuisinières et des filtres à eau à 1,3 million de personnes. J'ai visité une cinquantaine de pays. Plus je voyage, plus je réalise à quel point nous sommes semblables et nous pouvons tous travailler ensemble, dit Thomas Evan Alexander Bern dans une entrevue sur le site de l'Agence spatiale canadienne. Plus jeune, Thomas voulait être inventeur comme Thomas Edison ou Nikola Tesla. Je souhaite être un astronaute parce que la Station spatiale internationale est à la fois une plateforme de recherche-développement et une tribune mondiale pour des collaborations tangibles et fructueuses qui peuvent tout autant faire progresser l'exploration spatiale que répondre aux problèmes chroniques sur Terre, dit-il aujourd'hui. Andréane Vidal, repousser les limites du ciel. Andréane Vidal a décidé de devenir astronaute deux fois. La première fois à 8 ans, parce que voler dans l'espace lui apparaissait fabuleux. Puis la deuxième fois à 36 ans, quand l'Agence spatiale canadienne a lancé sa quatrième campagne de recrutement. Chaque fois que je m'envolais dans un avion militaire, j'avais envie de repousser les limites du ciel, explique-t-elle dans une vidéo publiée sur le site Internet de l'Agence spatiale canadienne. Entre les deux, c'est une prestigieuse carrière militaire qui a happé la Montréalaise d'origine, aujourd'hui installée à Belleville, en Ontario. Madame Vidal est officière au sein des Forces armées canadiennes, où elle élabore des plans pour que le pays puisse réagir rapidement en cas d'accident chimique, biologique, radiologique ou nucléaire. Elle est l'une des rares femmes à travailler au sein du commandement des forces d'opérations spéciales du Canada. J'ai dû travailler d'arrache-pied pour y faire ma place. Aujourd'hui, mes quelques collègues femmes et moi faisons partie intégrante de l'équipe, dit Andréane Vidal. Adolescente, elle s'est passionnée pour la chimie, ce qui l'a conduite à faire un baccalauréat en génie chimique du Collège militaire royal du Canada. J'étais fascinée par le fait qu'absolument tout dans l'univers connu se résume à des interactions entre aussi peu que 118 petits éléments chimiques. Du moins, c'est ce que l'on croit. Qui sait ce que l'exploration de l'univers nous permettra de découvrir, lance-t-elle. Devenir astronaute représenterait pour elle l'occasion de mettre ses compétences au profit de l'humanité. Bien que j'exerce un métier extrêmement gratifiant sur le plan intellectuel et physique, je ressens le besoin de repousser encore plus mes limites personnelles, a-t-elle confié à l'Agence spatiale canadienne. Les compétences avant tout. Oubliez la rectitude politique, l'Agence spatiale canadienne dit ne pas avoir considéré la parité homme-femme ou la représentativité régionale dans le choix des finalistes. Ce sont vraiment les compétences des candidats qui sont sélectionnés, explique Carl Saad, responsable de la campagne de recrutement à l'Agence spatiale canadienne. La suite? Jusqu'à maintenant, les candidats astronautes ont été testés sous toutes les coutures dans des épreuves physiques et psychologiques. L'Agence spatiale canadienne voulait notamment évaluer leur jugement, leur intégrité, leur capacité de travailler en équipe et leur résistance au stress. Carl Saad, responsable de la campagne de recrutement, explique que ce sont maintenant surtout des entrevues et des examens physiques poussés qui attendent les 17 finalistes. Deux astronautes seront choisis au début de l'été et commenceront leur entraînement à Houston dès le mois d'août. Parmi les 17 finalistes, on trouve 12 hommes, 5 femmes, 6 natifs de l'Ouest canadien, 5 ontariens, 3 québécois, 2 natifs des provinces atlantiques, 1 américain établi en Ontario, 5 médecins, 12 ingénieurs, certains sont médecins et ingénieurs, 8 militaires et 10 titulaires d'un doctorat. Alors voilà pour cette lecture d'un texte publié dans la presse d'aujourd'hui. 3 Québécois espèrent décrocher la Lune. C'est un texte signé Philippe Mercure. Vous écoutez Canal M, la radio de Vues et Voix. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Je vous invite à rester avec nous pour la chanson et aussi les internationales, les nouvelles internationales, les nouvelles culturelles, ainsi que la tournée des journaux régionaux. Bon mardi.
dessous des bains durs, comme des vrais jumeaux qui sont collés dans le dos. On se parle sans rien dire, on se noie de plaisir. C'est comme des poissons dans l'eau, on est tout ce qu'il nous faut. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis à la dérive. Qui n'apparaissent pas dans la liste. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme un point noir minuscule qui envahit nos cellules. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis à la dérive.
et on n'écoutait jamais de Serge Fiori.
Les informations internationales, États-Unis, l'Arkansas a procédé à une double exécution. L'Arkansas a procédé hier soir à une double exécution de deux condamnés à mort, une première aux États-Unis depuis 17 ans, a annoncé la procureure générale de cet État du sud du pays. Jack Jones et Marcel Williams, condamnés de façon distincte dans les années 90 pour viol et meurtre, ont chacun reçu une injection létale, a précisé dans un communiqué Leslie Rutledge, après que différents tribunaux ont rejeté leurs ultimes recours judiciaires. Leur décès s'inscrit dans un calendrier très controversé d'exécution accélérée en Arkansas en raison de l'approche péremption d'une substance utilisée dans les injections mortelles. Les deux hommes sont les deuxième et troisième détenus mis à mort en avril dans cet État qui avait initialement prévu d'exécuter 8 prisonniers en 11 jours. Mais ce programme d'exécution précipité a été la cible de multiples recours judiciaires et d'une mobilisation internationale des opposants à la peine de mort. Cette bataille devant les tribunaux s'est pour l'heure soldée par la suspension de 4 des exécutions prévues, une cinquième ayant été pratiquée jeudi dernier. Outre les 2 exécutions réalisées hier, une dernière est prévue le 27 avril. Le dernier État américain à avoir exécuté 2 détenus en un jour est le Texas le 9 août 2000. Obama sort de son silence mais évite le sujet Trump. L'ex-président n'avait pas fait de discours depuis son départ. Après 3 mois de vacances, l'ancien président américain Barack Obama est sorti de son silence lundi pour lancer la nouvelle phase de sa carrière, encourager une nouvelle génération d'Américains à s'engager en politique. Il n'a pas évoqué Donald Trump. Accueilli par une ovation de près de 500 étudiants dans un auditorium de l'Université de Chicago, Barack Obama est apparu détendu et tout sourire, sans cravate, se permettant une plaisanterie en introduction. « Il s'est passé des choses en mon absence ?» Puis, l'ancien président a expliqué la cause qu'il avait choisie pour la suite de sa vie publique. « La chose la plus importante que je puisse faire est d'aider à préparer la prochaine génération de leaders à prendre le relais pour tenter de changer le monde. » M. Obama a déploré l'influence de l'argent et des groupes d'intérêt en politique, les redécoupages partisans des circonscriptions électorales ou encore la polarisation croissante des médias regrettant que des gens se déclarent impuissants ou résignés. Notre taux de participation aux élections est l'un des plus bas de toutes les démocraties, a dit l'ancien président. Les seuls à pouvoir résoudre ce problème, ce sont les jeunes, la prochaine génération. Trois personnes ont été tuées hier au Venezuela au terme d'une nouvelle journée de mobilisation hostile au président socialiste Nicolas Maduro, portant à 24 le nombre de victimes en 3 semaines de manifestation. Nous avons vérifié et je confirme la mort de 2 hommes dans des manifestations à Barinas et Mérida, 2 villes situées dans l'ouest du pays, a indiqué une source du parquet. Les victimes sont des hommes de 42 et 54 ans, selon le parquet, qui dénombre aussi 7 blessés. Une troisième personne est morte lors des manifestations, a annoncé Jorge Rodriguez, principal délégué du chef de l'État. L'annonce de ces morts contraste avec le calme constaté lors de la mobilisation d'hier, quand des milliers d'opposants ont bloqué les routes du pays pour réclamer des élections générales anticipées. Seules quelques heures ont été observées quand la police a dispersé avec du gaz lacrymogène des manifestants qui lui jetaient des pierres sur une autoroute de la capitale. Tension entre Washington et Pyongyang. Le statu quo en Corée du Nord est inacceptable et le Conseil de sécurité doit être prêt à imposer de nouvelles sanctions plus fortes. C'est une réelle menace pour le monde. C'est le président des États-Unis, Donald Trump, lors d'une rencontre à la Maison-Blanche en présence des ambassadeurs à l'ONU des pays membres du Conseil de sécurité. 6 séries de sanctions ont déjà été imposées à la Corée du Nord, dont 2 l'an dernier. C'était sa citation. Actualité culturelle, alors que sur la place d'Armes à Montréal, ils étaient quelques 500 travailleurs culturels de tous horizons rassemblés pour dénoncer le manque de financement au Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministre Luc Fortin déclarait lors de l'étude des crédits à Québec que l'organisme subventionnaire serait sa priorité, tout en laissant tomber que la future politique culturelle du gouvernement ne serait dotée de budget qu'en 2018. Les manifestants, à l'invitation du Mouvement pour les arts et des lettres, le MAL, et du Conseil québécois du théâtre, ont souligné l'insoutenable état d'urgence dans lequel vivent les artistes et ont réclamé une injection d'argent au CALQ afin que son budget de 89 millions de dollars, 109 millions selon les chiffres de Québec, soit majoré à 135 millions. Le CALQ, je vous rappelle, c'est le Conseil des arts et des lettres du Québec. L'année 2017 est une importante année pour le CALQ qui s'apprête en juillet à fixer les subventions au fonctionnement des organismes culturels pour les 4 prochaines années. Son album « L'étoile thoracique » a valu à Claude Pelgag le prix Rapsat Le Lièvre 2017 qui vise à encourager le rayonnement de la langue française. Les membres du jury international ont dit avoir été charmés par l'univers poétique de l'auteur-compositrice-interprète gaspésienne qui met en valeur la vivacité de la langue française. Et en exclusivité dans la presse, le nouveau défi de Marc Messier. En 45 ans de carrière, Marc Messier n'a jamais défendu un premier rôle dramatique au théâtre. Ce sera chose faite l'automne prochain lorsque le comédien défendra le rôle. Maintenant, Tout le monde en parle a obtenu son passeport pour une 14e saison l'automne prochain à Ici Radio-Canada Télé. Encore cette année, l'émission de Guy Lepage et de Dany Turcotte a su maintenir son auditoire malgré les gros canons de TVA. Hier soir, 794 000 téléspectateurs l'ont regardé contre 1 929 000 pour La Voix. Coup du destin, Hubert et Fanny, une comédie romantique bientôt au petit écran. Une rencontre improbable entre deux êtres qui n'ont rien en commun a inspiré l'auteur Richard Blémer pour Hubert et Fanny, une série dramatique qui aboutira à Ici Radio-Canada Télé, mettant en vedette Thomas Beaudoin et Mylène Saint-Sauveur dans les rôles-titres, l'œuvre s'articule autour d'un tatoueur de 34 ans qui refuse de s'engager et dont le plus fidèle compagnon est son chien, et d'une travailleuse sociale qui, en couple depuis 7 ans, tente d'avoir un enfant. Avec Hubert et Fanny, l'auteur a créé un univers plus réaliste que celui des hauts et des bas de Sophie Paquin, mais avec plus d'humour que dans Nouvelle Adresse. Le tournage de Hubert et Fanny doit s'amorcer le 6 mai. La majorité des épisodes seront réalisés par Marie-Lou Wolfe. L'histoire d'amour se situera à Montréal, dans le secteur de Rosemont, la petite patrie. Les journaux régionaux maintenant, c'est un texte de Brigitte Trahan tiré du journal Le Nouvelliste, Une nouvelle vie pour Bonds comme os. C'était à la mi-octobre 2015, un chien errant trouvé par une citoyenne de Shawinigan avait été confié à la succursale de Shawinigan de la Société protectrice des animaux de la Mauricie. Les employés avaient surnommé le boxer Bones, avec un S. Il était déshydraté. Il souffrait tellement de faim que ses muscles avaient fondu. On pouvait voir presque tous les détails de son squelette. Du pus s'échappait de ses oreilles et de ses narines. À 17 kilos à peine, il s'agissait du pire cas de sous-alimentation que la SPAM avait eu à soigner. Ce pauvre chien avait ému toute la région, en particulier le photographe bien connu Daniel Jalbert et sa conjointe Michelle Rowe, qui, en le voyant dans les médias, ont décidé que sa misère deviendrait chose du passé. Pardon. Un mois à peine avant de découvrir la triste histoire de Bones, le couple avait été obligé de faire euthanasier Chico, son grand danois, ce qui avait laissé un grand vide. C'était clair qu'on aurait un autre chien, raconte Mme Rowe, qui a eu 3 boxers au cours de sa vie. C'est ma race, dit-elle. Parce que ce sont de gros bébés, de gros nounours, dit-elle, ça n'a pas de malice. À l'arrivée du nouvelliste à Saint-Paulin lundi, où Bonds vit maintenant avec ce couple, c'est à 2 mains que Daniel Jalbert retenait son nouveau compagnon à 4 pattes. Bonds est aujourd'hui fort et énergique. Des faméliques 17 kilos qu'il faisait à son arrivée à la SPAM il y a 1 an, le voici tout en muscles qui arbore fièrement 34 kilos, soit 2 fois son poids. Les amis et la visite qui arrivent à la maison l'excitent au plus haut point et il demeure dans un état de frénésie jusqu'à ce que chaque centimètre carré des mains ou du visage du visiteur ait été soigneusement humecté, voire trempé, à grands coups de langue. Une fois la tempête calmée, il revient périodiquement chercher doucement des caresses d'un coup de tête. Le visiteur fait partie de sa meute. Bonds ne manque jamais d'imprimer son gros museau brun dans la vitrine en laissant échapper quelques supplications quand il veut aller dehors. C'est qu'à proximité de la maison où il habite maintenant à Saint-Paulin, il y a un lac et suffisamment de vie dans les boisés sur le grand terrain pour laisser libre cours à tous ses instincts de chasseur. C'est un véritable conte de fées que vit maintenant ce chien de 4 ans. Malgré tout, Bonds porte encore quelques cicatrices psychologiques de son mystérieux et douloureux passé. On a essayé de connaître ses antécédents, raconte Daniel Jalbert, mais sans succès. J'ai sorti la pelle à neige à un moment donné et il en a eu peur, dit-il. Même chose avec le râteau. Il s'en méfie. On peut imaginer par quelle horreur il a pu passer. Michelle Rowe raconte qu'il avait un petit quelque chose à la mâchoire au début, comme s'il avait été frappé violemment à la tête. « Tout est rentré dans l'ordre maintenant, dit-elle. Tout sauf un problème chronique de digestion que seule une moulée sans gluten semble contrôler. S'il est un couple qui méritait d'adopter Bonds, c'est bien celui-ci. » Car il a fallu ramasser patiemment pas mal de vomissures avant de mettre le doigt sur le problème et en venir à bout. Malgré tout, ces amoureux des chiens n'ont jamais regretté leur décision. « La maltraitance, ça me touche beaucoup », confie Mme Rowe. Malgré tous les bons soins et l'amour que lui prodigue sa nouvelle famille, Bonds demeure anxieux, reconnaît le couple. Tout laisse croire qu'il n'a pas été socialisé quand il était petit. À la SPAM ou la SPAM, on avait constaté que Bonds avait une certaine peur des hommes. Quand Daniel Jalbert s'était rendu sur place pour jouer avec lui, toutefois, la connexion s'est faite tout de suite, dit-il. Le couple, qui faisait partie d'une longue liste de personnes désireuses d'adopter Bonds, a eu droit de faire une petite marche avec lui devant la SPAM de Shawinigan. Quand on est revenu, il s'est couché en dessous de ma chaise, raconte Michelle Rowe. Il nous avait choisi, dit-elle, en racontant qu'elle avait pleuré de joie quand elle a su que la SPAM avait accepté leur candidature. « Je l'aimais. Dans mon cœur, c'était mon chien », confie-t-elle. « Il y avait une chimie entre nous. » « Maintenant, il fait partie de la famille », ajoute Daniel Jalbert. Le couple Jalbert-Rowe n'a pas voulu changer Bonds de nom après son adoption. « C'est son histoire, après tout », plaide Daniel Jalbert. Ce dernier a toutefois développé le réflexe de toujours mettre un « ti » devant Bonds quand il l'appelle. C'est son Tipitou, maintenant, et T-Bone, Ça sonne tellement mieux que Bones quand on est passé de la famine à une famille aimante sur qui on peut compter. Exclusif, transport, le MTQ freine Théo Taxi. C'est un texte de Baptiste Ricard Châtelain dans Le Soleil d'aujourd'hui. L'arrivée de Théo Taxi dans la capitale est freinée par le ministère des Transports, a appris Le Soleil. Le projet d'expansion du médiatisé homme d'affaires Alexandre Taillefer est donc reporté. D'abord annoncé pour l'automne, puis pour juin 2017, la venue de l'entreprise qui se vante de révolutionner l'industrie locale du transport, Dixit, son site web, est remise à plus tard, nous confirme-t-on, chez XPND Capital. L'entreprise est la société mère de Taxel Co., cette filiale qui a mis la main sur 40 % du marché du taxi à Montréal avec Théo Taxi, Taxi Diamond et Taxi Hochelaga pour un total de 1720 voitures. Quand nous avons demandé à la compagnie de faire le point sur ses visées dans la capitale, l'enthousiasme semblait quelque peu décéléré. Nous sommes toujours soumis aux contraintes sur projet pilote et il nous est impossible d'agrandir notre parc de taxis à plus de 110 voitures. Nous sommes tributaires du MTQ, ministère du Transport du Québec. À cet égard, nous a écrit le bureau de M. Taillefer. Un projet pilote? C'est qu'en pleine crise du taxi contre Uber, le gouvernement libéral de Philippe Couillard a adopté un projet de loi qui donne le pouvoir au ministre des Transports de lancer des projets pilotes pour moderniser l'industrie. C'est ainsi que Théo Taxi a obtenu le droit de louer des permis de taxi plutôt que de les acheter. Cela n'était pas légal avant. En échange, Théo a mis sur la route des voitures électriques. Dans ce projet pilote, la limite est fixée à 110 permis loués. Pour rouler dans la capitale, Alexandre Taillefer a donc demandé au ministre des Transports de modifier le projet pilote pour augmenter le nombre de permis qu'il peut louer. La demande a été refusée. Il y a effectivement une demande de la part de Taxel Co. d'amener le projet pilote à Québec. On a rencontré M. Taillefer à quelques reprises. On discute avec lui, indique Mathieu Gaudreau, l'attaché de presse du ministre Laurent Lessard. Il nous demande une dérogation. Nous, on a toujours eu comme philosophie de ne pas faire de dérogation. Il n'y a pas blocage, assure M. Gaudreau. Il souligne cependant que des consultations sont en cours avec l'industrie du taxi et que le projet pilote de 2 ans qui se terminera en novembre 2017 sera pérennisé s'il est jugé concluant. Dès lors, Taxel Co. pourra investir le marché de la capitale avec sa marque Théo. Alexandre Taillefer est prêt. Dès que notre projet sera pérennisé, nous aurons besoin de 6 mois environ pour s'implanter à Québec avec une première flotte Théo. Théo fonctionne sur un modèle d'affaires qui diffère de celui du taxi traditionnel. Les voitures électriques sont commandées via une application mobile et les chauffeurs sont des salariés gagnant 15 $ l'heure qui bénéficient d'avantages sociaux de base, dont des vacances de 2 semaines. Succès pour Alloprof en sciences, texte de Pauline Mourat dans Le Quotidien. Le centre Alloprof en sciences Rio Tinto Saguenay a fêté son premier anniversaire lundi à l'école secondaire Charles Gravel de Chicoutimi et l'organisation en a profité pour dévoiler une nouvelle approche pédagogique via sa chaîne YouTube. Cette première année est un franc succès. Les jeunes ont envie de réussir et on leur doit un service à la hauteur de leurs attentes, a expliqué la directrice générale d'Alloprof, Sandrine Faust. En 1 an, l'équipe de la région a contribué à plus de 3,7 millions d'accompagnements d'élèves dans les matières scientifiques. Alloprof a décidé de s'adapter aux volontés et aux goûts de ses élèves en lançant du nouveau contenu sur la chaîne YouTube de l'organisation. sous la houlette du coordonnateur en développement des vidéos, Jérémy Anka Thibodeau. 25 vidéos à caractère scientifique ont été publiées dimanche soir à l'attention des élèves. On veut donner à l'élève le contrôle de son apprentissage. Il peut écouter la vidéo plusieurs fois, la mettre sur pause. C'est lui qui décide de son rythme et c'est l'un des gros avantages de ce système, explique M. Anka Thibodeau. L'école secondaire Charles Gravel a mis des locaux à la disposition d'Alloprof pour produire les vidéos réalisées par les enseignants. Pour trouver les sujets qu'on traite, on se base sur les difficultés que nous rapportent les professeurs. Il y a quand même plus de 5000 notions à assimiler, fait remarquer le directeur des relations extérieures et de la stratégie chez Alloprof, Marc-Antoine Tanguay. L'organisation espère pouvoir atteindre un objectif de 500 nouvelles vidéos d'ici 2020, en commençant par les sciences et les mathématiques. Alloprof Saguenay est le seul centre de l'organisation spécialisée en sciences, technologies et mathématiques. Une équipe de 15 enseignants est présente pour répondre aux questions des élèves et 99 % d'entre eux se disent satisfaits des services offerts. Un grand merci Rémi à la mise en onde. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée, un beau mardi 25 avril. Je vous retrouve demain avec plaisir à l'émission Les Voix de service magazine et Les Voix de service quotidien tout de suite après.